Cours de métaphysique du 2 décembre 1983 sur la personne Père Marie-Dominique Philippe Rimaud. Alors je vous indique dans vos lecture, le livre qui vient de paraître. Hein. Donc, le centurion sur personne et actes. Et d'après tout ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment là où on touche la philosophie du Saint-Père actuel. C'est pas la théologie du Saint-Père, vous voyez, j'ai pas le droit de dire que c'est la philosophie du Saint-Père, j'ai le droit de dire que c'est la philosophie de Carole Wojtyla, mais pas du Saint-Père. De sorte que je peux le critiquer. Il est critiquable en tant que philosophe. Et je crois que ce serait intéressant d'essayer de voir ce qui en est. C'est sûrement très intéressant. Personne et acte. Dis donc. Alors avant de regarder ça, j'essaierai de le regarder dans la mesure où j'aurai le temps de le travailler. Nous allons continuer d'abord de voir ce que saint Thomas nous dit sur la personne. En Dieu, personne et individu ne font qu'un. Je peux attribuer la personne à Dieu parce que la personne n'implique aucune imperfection. Si la personne n'implique aucune imperfection, je peux donc l'attribuer à Dieu. Et saint Thomas précise qu'en Dieu, personne et individu ne font qu'un. La personne de Dieu est donc son essence, sa nature, mais elle diffère selon le mot doux signifiant le dit. La personne signifie per modo subsistentis. Le nom propre de chaque personne divine signifie ce par quoi cette personne est distincte des autres. Alors ça, c'est autre chose. Autrement dit, j'attribue à Dieu le mot personne dans son mystère même de Dieu. Et la personne signifie la nature de Dieu, l'essence de Dieu. La seule différence qui existe, c'est le mot personne signifie per modo subsistentis. Tandis que la nature ne signifie pas per modo subsistentis. Mais c'est la même signification, forcément. Puisque Dieu est absolument simple, omnino simplex. Or, en Dieu, pas de distinction entre essence et suppos. L'article 3 de la simplicité de Dieu. Pas de distinction entre essence et existence. Donc, je ne peux pas dire qu'en Dieu, il y a une distinction entre nature et personne. Dieu est une personne. Impossible autrement. Il est une personne. Pourquoi ? Parce que le mot personne n'implique en lui-même aucune imperfection. Donc je peux l'attribuer à Dieu. Si le mot personne impliquait une imperfection, je ne pourrais pas l'appliquer à Dieu. Alors, la question très délicate, vous savez bien, c'est là la très grosse difficulté. La foi me dit qu'en Dieu, il y a trois personnes et une réalité. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il y a une réalité, une res et trois personnes. Alors, saint Thomas va essayer, je dis bien essayer, d'un point de vue proprement théologique, de préciser comment le mot personne, qui implique quelque chose d'absolu, peut impliquer aussi quelque chose, je ne dis pas de relatif, hein, faisons attention, ça reste toujours quelque chose d'absolu, mais que la personne peut impliquer une distinction. Alors, comment en Dieu s'introduit la distinction? Toute la question est là. C'est tout le traité de la très sainte Trinité. Je ne veux pas marcher sur les plates-bandes. Hein. Faire attention. Faut faire bonne attention. Et ça, c'est vrai. Alors, est-ce que, ça, je peux le dire, ça, est-ce que la Très Sainte Trinité m'apporte une nouvelle notion de personne? Le Père Guérard disait, la Très Sainte Trinité me donne une nouvelle notion de relation. Ce que je crois être faux. Parce que je crois que le mystère de la Très Sainte Trinité m'apporte aucun nouveau concept. Aucun. La foi ne me donne aucun nouveau concept. La foi m'apporte un jugement d'existence nouveau, mais aucun nouveau concept. Autrement dit, ce n'est pas parce que j'ai la foi que je suis plus intelligent. La foi m'apporte un nouveau jugement d'existence, mais pas un nouveau concept. Très très important ça, de comprendre cela, de saisir cela. Donc la foi ne m'apporte pas une nouvelle notion de relation. Et la foi ne m'apporte pas une nouvelle notion de personne. Mais je vois que je peux affirmer qu'il y a trois personnes en Dieu sans que ce soit contradictoire. Vous voyez la difficulté, ça c'est coriace. C'est très coriace parce que c'est vraiment là où au point de vue, ce que nous intéresse ici, au point de vue philosophique, vous comprenez, est-ce que ce problème des trois personnes en Dieu va-t-il m'apporter une nouvelle notion de personne? Alors voyez, déjà le problème, ce qu'on disait tout à l'heure, on a posé la question tout de suite au début du cours, est-ce qu'on peut parler d'une ratio personnelle? Saint Thomas parle d'une ratio personnelle. Il parle d'une définition de la personne. Y a-t-il vraiment une définition de la personne? Il en parle en fonction de Boèse. Hein. Nous l'avons vu, ça, c'est toujours le souci. Donc, s'il y a une définition, il y a une ratio, c'est-à-dire un logos. C'est logos, ça veut dire ça. Il y a un logos de la personne. La personne est intelligible, c'est vrai. Il y a une intelligibilité propre à la personne. Alors, pris d'une façon très, très générale, on peut dire qu'il y a une intelligibilité propre à la personne. Et l'intelligibilité propre à cette personne, c'est justement que la personne est toujours prise d'une manière concrète. Individuelle, à la différence de la nature qui, elle, peut être prise d'une façon abstraite. Or, en Dieu, Dieu et déité sont la même chose, donc en Dieu, personne et nature sont la même chose. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'ajoute à la nature. La simplicité de Dieu fait que l'individualité de Dieu et la nature de Dieu sont la même chose. Et c'est pour ça que je peux dire que l'essence de Dieu et la personne de Dieu sont la même chose, mais sont signifiés d'une façon différente par une double substantielle. Alors voyez, le ratio personnel, faisons grande attention quand Saint Thomas parle de ratio personnel, ça veut dire le logos de la personne, c'est-à-dire il y a une certaine intelligibilité, il y a une certaine intelligibilité de la personne, c'est très vrai, et cette intelligibilité de la personne n'est pas une intelligibilité qui implique une imperfection, elle implique une perfection, mais ça ne me dit pas du tout qu'il y a une définition au sens classique tout à fait différent. Et on verra, alors je vous le dis tout de suite, on le verra au point de vue métaphysique, que la personne n'est pas un nouveau principe, mais un pose. Elle est de l'ordre du commun. Parce qu'elle est de l'ordre du concret. C'est comme pour l'individuation. L'individuation n'apporte pas au sens rigoureux un nouveau principe, ça te va par le principe d'individuation. Nous le savons. Mais ça, c'est le théologien qui dit ça. Le théologien peut se permettre un langage un peu plus souple que le philosophe qui, lui, doit être très précis dans son langage. En réalité, il n'y a pas de principe d'individuation. Il y a une manière d'être particulière qui est d'être un individu. Mais il n'y a pas un principe particulier, parce que s'il y avait un principe particulier d'individuation, nous aurions chacun nos petits principes, n'est-ce pas, d'individuation. Et alors, par le fait même, ce principe ferait que nous ne serions plus la même nature humaine. Mais il y a une manière d'exister à Pose. C'est pour ça que je crois que l'individu, comme la personne, se situe du niveau du Pose, du comment. Et c'est pour ça que c'est la ratio du pos. C'est la ratio d'une réalité concrète. Or, la raison d'une réalité concrète, c'est indéfinissable. Je ne peux pas définir l'individu. L'individu est ineffable. Tout le monde le sait. L'individu est ineffable. Vous avez ce privilège énorme d'être ineffable. On ne peut pas vous mettre dans un casier, dans une fiche. Heureusement. Parce que vous rugiez dans les rancards. Comme individu, comme tel. L'individu est ineffable, il ne peut pas. Donc, au sens tout à fait rigoureux, vous voyez, il n'y a pas de ratio de l'individu. Et cependant, il y a une ratio, si je prends au sens logos, intelligibilité. L'individu n'est pas inintelligible. Il est ineffable, mais il n'est pas inintelligible. C'est deux choses différentes. Alors, dans la mesure même où il n'est pas inintelligible, je peux dire logos, je peux dire ratio. Mais alors, vous voyez, c'est là toute la souplesse du mot ratio. Si ratio, prenons, si vous voulez, pour essayer de saisir, hein, parce qu'il faut saisir ces choses-là, et c'est pas commun. Il y a une ratio au niveau de la définition logique. Il y a une intelligibilité première au niveau de la définition logique. Et cette définition logique est par genre les différences spécifiques. Donc ça, c'est la ratio au niveau de chez. Il y a une raison logique. Tout le monde comprend ça. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre ce que c'est que la définition. Une grosse intelligence de gros gabarit comprend ce que c'est que la définition par genre et différence spécifique. C'est univoque. Bon. Il y a un autre régime de ratio qui est au niveau du principe. Le principe a son intelligibilité propre qui n'est plus définissable. Vous ne pouvez pas définir un principe puisque le principe par définition est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Or, toute définition implique quelque chose au-delà de quoi je peux aller, puisque ça implique genre et différence spécifique. Et que le genre déborde la définition. Donc, le genre est quelque chose de plus ample. Tandis que lorsqu'il s'agit d'un principe, vous ne pouvez pas avoir le genre d'un principe. Ce serait contradictoire. Pensez le genre d'un principe propre. Pensez principe, tout simplement, lousillant. Hein? C'est-à-dire la substance. Bien. La ratio du principe. Le principe a bien une ratio. La ratio du principe n'est plus une intelligibilité univoque. C'est une intelligibilité analogique. Donc, il faut bien saisir ces deux niveaux d'intelligibilité. C'est capital de saisir ça. Le niveau de la ratio et de la définition, vous voyez, je suis là à un niveau pré-philosophique. Définir, c'est logique, ce n'est pas philosophique. Dans la mesure même où la logique n'est pas la philosophie, ce que saint Thomas dit explicitement, hein, commentaire sur Boès, du De Trinitate de Boès. Et saint Thomas là reprend Aristote. La logique n'est pas une partie de la philosophie, elle est un organone. Donc elle est simplement un instrument. Donc définir, c'est œuvre de logique et ce n'est pas philosophique. Donc je suis à un niveau pré-philosophique. Tandis que la saisie des principes et des principes propres, c'est au niveau philosophique. J'entre en philosophie en tant que science dans la mesure où j'ai saisi les principes propres. Et le principe propre, par définition, n'est pas définissable. Il a cependant une intelligibilité propre. Vous voyez, ne ramenons pas l'intelligibilité à la définition. L'intelligibilité de la définition est une intelligibilité au niveau univoque. c'est-à-dire une intelligibilité qui implique genre et différence spécifique. Vous voyez, c'est capital de comprendre ça, parce que je crois que la scolastique décadente n'a plus fait cette distinction. Et c'est ça qu'on doit remonter à la source, remonter à la source. Hein. C'est ça qui est très important. Parce que si je ne fais pas ça, j'identifie, et c'est ça qui a fait de fait la scolastique décadente, elle a identifié métaphysique et logique. C'est dit explicitement chez Locke, c'est dit moins explicitement chez Suarez, mais c'est quand même ce qui, de fait, l'influence hockhamienne a été très forte. Et alors, on peut dire qu'il y a confusion entre ces deux registres. Le registre pré-philosophique et le registre philosophique. J'entre en philosophie dans la mesure où je saisis un principe propre. Tant que je n'ai pas saisi de principe propre, je ne suis pas en philosophie. Je suis en logique, je définis. Le Larousse définit. Et le Larousse n'est pas philosophique. Il est pré-philosophique. La philosophie, la langue définit. La philosophie du langage de la langue définit. On est pré-philosophique, on n'est pas en philosophie. Puis alors, troisième niveau de la ratio, au niveau du pose, je peux parler d'une intelligibilité qui n'est plus celle du principe, qui est l'intelligibilité du pose. Exactement comme je peux dire que l'individu est ineffable. Et cependant, je peux parler de la ratio de l'individu. Oui, très bien. L'individuum vagum, hein, comme diront les scolastiques, l'individu vague, hein, quand il y a beaucoup de brouillard métaphysique. Hein, alors l'individuum vagum, alors l'individu vague, il y a une certaine intelligibilité de l'individu vague, mais je ne peux pas le cerner, c'est vague. Alors il y a une certaine intelligibilité, bien, l'analogue, hein, comprenons bien, l'analogue de la ratio de l'individu au niveau proprement philosophique, c'est la ratio du pose et c'est la ratio de la personne. Alors à ce moment-là, je comprends qu'il y a au fond quatre niveaux d'intelligibilité. Vous voyez bien, puisque je les double. Il y a l'intelligibilité classique, la grosse intelligibilité de la définition. Il y a l'intelligibilité de l'individu. Concret. Blanc, blancheur, hein, toujours les deux. La grosse, alors l'intelligibilité de l'individu. Il est ineffable. Mais qui dit qu'il est ineffable ne veut pas dire qu'il est non intelligible. Mais je ne peux pas le cerner. Je ne peux pas mesurer un individu. Je ne peux pas le cerner. Je peux simplement le décrire. C'est l'intelligibilité qui se donne dans une description. C'est intelligible une description. C'est peut-être même très intelligible une description. Mais je ne peux pas le cerner. Ça va dans les sens multiples et divers. Alors ça, c'est l'intelligibilité de l'individu. Puis alors, au niveau proprement philosophique, j'ai la raison du principe, donc l'intelligibilité propre du principe qui est donc analogique, parce que je suis en philosophie, et puis l'intelligibilité du pos. Et l'intelligibilité du pose n'est pas l'intelligibilité d'un principe propre. C'est la manière dont ce principe existe. C'est la manière dont ce principe existe. Eh bien, il y a une certaine intelligibilité, donc je peux dire un logos. Ce n'est pas inintelligible. Et parce qu'il y a logos, il y a ratio. Traduisons. Il y a ratio. Et parce qu'il y a ratio, il y a une certaine intelligibilité de ce pose. L'intelligibilité de la personne, c'est l'intelligibilité d'un pose. Vous voyez, mais je peux dire ça d'un point de vue critique. Si j'essaie de comprendre au point de vue philosophique ces différents niveaux d'intelligibilité, au point de vue théologique, tout ça est lié. Le théologien se sert de ces quatre degrés d'intelligibilité sans qu'il y ait gaffe. Alors vous comprenez que celui qui n'a pas de philosophie en lisant saint Thomas, il fait la mélasse. Les quatre degrés d'intelligibilité. Alors il dit à ratio, à définition. Alors vous avez une définition du pose. Sans rien comprendre du tout. vous avez une définition des principes sans rien comprendre du tout, puisque vous dites qu'il y a ratio. Mais c'est ça qui est terrible, le mot ratio chez saint Thomas, on le sait très bien, hein, quand il s'agit de traduire le mot ratio, vous pouvez traduire ratio, entre guillemets, j'aime encore mieux ça, traduire ratio entre guillemets, que de vouloir donner le mot ratio, on est en théologie, donc le mot ratio assume tout cela. Je ne peux pas traduire ratio de définition. Je peux de temps en temps le traduire. Je peux traduire ratio intelligibilité propre. Je peux dire ratio l'intelligibilité ultime. Je peux dire ratio, oui, l'intelligibilité. C'est l'intelligibilité que c'est le logos. Et vous voyez, quand vous passez par le grec, vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux que logos, intelligible, mais ce n'est pas la définition de logos. C'est autre chose. C'est l'intelligibilité que vous saisissez dans la réalité. Et c'est ça que vous cherchez. C'est l'interrogation du TST. Oui. À l'interrogation du TST correspondent ces différentes rationnesses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la personne? J'ai parfaitement le droit de me poser la question, qu'est-ce que c'est que la personne? Eh bien, je définis la ratio de la personne. J'essaie de comprendre ce que c'est que la ratio de la personne. Et je dis au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, la personne est un pauvre. Et là, je caractérise l'intelligibilité de la personne. Ce n'est pas un principe propre. Est-ce qu'on peut, et c'est intéressant, est-ce qu'on peut, un étudiant qui avait essayé de faire ça, est-ce qu'on peut donner un principe propre de la personne? Est-ce que la personne implique un principe propre? Très intéressant de se poser la question. Alors, si la personne pose un principe propre, vous voyez, il y aurait une nouvelle philosophie de la personne. Alors, la philosophie ne serait plus la philosophie de l'être, la philosophie de la personne, la philosophie de l'esprit. Et au fond, c'est intéressant de se poser la question. Très intéressant de se poser la question, est-ce que de fait, il y a philosophie métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit? Est-ce que vous avez une métaphysique de la personne? Ou est-ce que la personne est inclue dans le métaphysique de l'être? Ce sera un problème, hein, que nous toucherons. Avec notre personne et acte, on touchera ce problème-là. C'est pour ça que je dis, c'est très important de bien saisir ces niveaux d'intelligence par rapport à la ratio personnelle. Alors, une fois que vous êtes là, je crois que c'était utile, on m'avait posé la question, et c'était utile de préciser ces choses-là dans le langage de saint Thomas. Parce que si on n'avait pas ça dans le langage de saint Thomas, on confond. Saint Thomas, étant théologien, ne précise pas. Il a le droit, parce qu'il est au niveau de la foi. Alors, quand vous êtes à un niveau très élevé, vous assumez toutes les diversités. C'est peu de choses. Comparativement à la foi, ces quatre niveaux d'intelligence sont peu de choses. Je suis tellement élevé. Il est dans la stratosphère intellectuelle. Alors, mais c'est celui qui vient après. C'est celui qui vient après. Si je suis dans la foi, je peux très bien le faire. On a un estomac de bois au niveau de la foi. Alors on avale tout ça. Et saint Thomas ne crie pas gare. Vous voyez, c'est là où on voit très bien que saint Thomas ne forme pas au point de vue philosophique. Il forme au point de vue théologique, mais pas au point de vue philosophique. Et on en a la conclusion quand vous regardez la scolastique des cadres. Vous voyez que ça ne forme pas. Parce que vous ne distinguez pas ces niveaux. Alors c'est justement ça qui forme. C'est de distinguer où vous en êtes au niveau de l'intelligibilité. C'est ça qui est important. Si vous ne savez pas, si vous unissez aussi bien la définition que le principe et que le pose, alors ça prouve que vous n'avez rien compris. Rien du tout. Alors le philosophe, lui, distingue les niveaux. Parce qu'il sait ce qui est pré-philosophique, ce qui est philosophique et ce qui nous permet de rejoindre le réel existant, la réalité subsistante. Et la réalité subsistante, concrète, c'est la personne. La personne, ce n'est pas un principe. Pas un principe. Elle implique un principe, elle implique la substance. Mais elle n'est pas un principe, elle est quelque chose de plus. Elle est un principe d'une nature individuelle, d'une substance individuelle. Qui subsiste, qui subsiste en son autonomie. Bon. J'espère que maintenant vous comprenez la différence du langage de saint Thomas et du langage du philosophe. Il faut repenser saint Thomas pour comprendre ce que c'est que la philosophie. Ou il faut penser la philosophie pour comprendre ce que dit saint Thomas. Parce qu'autrement, c'est impossible. Alors, il y a quelque chose de très particulier. C'est quand saint Thomas essaie, et ça je crois qu'il est bon d'essayer d'y réfléchir au moins un instant, quand saint Thomas va montrer comment je peux appliquer le mot « personne » au mystère même de la très sainte Trinité. Alors, je pars brutalement, ici, je pars brutalement de l'affirmation de foi. Une race, un Dieu unique, absolument saint. Si Dieu est Dieu, il est absolument saint dans son être. L'ipsum esse subsistens. Il subsiste dans son esse. Ce que le Père Garegou aimait tellement. Ça, vous pouvez essayer de comprendre ce que c'est. Quand on affirme Dieu est l'ipsum esse subsistens. Il ne faut pas oublier. Hein. C'est la grande affirmation de la simplicité absolue de Dieu. Il est absolument saint dans son existence. Et parce qu'il est absolument saint dans son existence, en Dieu, individu et nature, personne et nature ne font qu'un. Et c'est ça, Dieu. Et Dieu, dès que j'affirme Dieu, il implique une personne puisqu'il implique un esprit. Il subsiste dans son être, il subsiste dans son existence. La foi me dit que dans ce Dieu unique, il y a trois personnes. C'est la foi qui me dit. Il y a trois personnes. Alors, comment concevoir trois personnes dans l'unité absolue? Or, la personne au niveau philosophique implique la substance. Comment dans une substance, il y a trois substances? Non, plus du tout. Vous voyez bien, c'est un gros problème, hein, puisque vous dites trois personnes. Or, vous avez dit que la personne, c'est justement que la personne implique la substance, et une substance d'une manière concrète, individuelle. Alors, vous dites qu'il y a trois personnes, et qu'il y a cependant une seule res. Alors, la personne implique le point de vue subsistance, implique le point de vue de la substance, et la substance individuelle. Alors, vous devez donc affirmer une substance et trois substances. Ça ne va pas. Alors, comment trouver ça? Comment trouver? Alors, vous dites, les trois personnes, vous réfléchissez, hein, le philosophe réfléchit. Au point de vue de la foi tout simple, j'affirme, je ne comprends rien, ça n'a pas d'importance. Hein? C'est comme ça. Le croyant, je dirais, plus c'est obscur, plus il se plonge dedans. Vous voyez? C'est propre du croyant. Il aime ça. Parce qu'il se dit, au moins, c'est bien, vous voyez, je vous offre mon intelligence, j'y comprends rien du tout, mais c'est vous qui me dites, c'est très très intelligent, c'est merveilleux, j'y comprends rien. Ça, c'est le propre du croyant. Et c'est très beau, du reste, hein, le croyant, tout ça. Le jongleur Notre-Dame. Il ne cherche pas à jongler avec les concepts, il est mieux jongler avec autre chose. Parce que c'est le jongleur Notre-Dame. Alors, il aime mieux offrir à Dieu, tout simplement, ses muscles, son corps, son travail manuel et tout ça, parce qu'il n'y comprend rien. Le théologien veut essayer de comprendre. Il veut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi répondre à ceux qui disent c'est contradictoire. Vous dites une substance et vous dites trois substances. Un, c'est pas trois. Ou bien alors à partir de là, vous dites que 1 égale 3 et 3 égale 1, donc ça ne signifie plus rien du tout. Donc le langage n'a plus aucune signification. Dites non, le langage a une signification. Affirmer l'unité de Dieu, la simplicité absolue de Dieu, et affirmer qu'il y a trois personnes en Dieu, ce n'est pas contradictoire. Et le théologien doit pouvoir montrer que ce n'est pas contradictoire. Et que non seulement ce n'est pas contradictoire, mais que c'est extraordinaire. L'unité reprise à l'intérieur des trois personnes me donne une unité que j'admire, que je contemple, qui dépasse l'unité à laquelle le philosophe aboutit. Alors, Mais Pierre-Jean va chercher quelle est l'intelligibilité que j'ai du mystère de la très sainte Trinité. Comment le mystère de la très sainte Trinité m'est-il révélé? C'est toujours ce qu'il faut se demander. Parce que Dieu est plus intelligent que moi. Et donc quand Dieu me révèle un mystère, je vois comment Dieu me l'a révélé. Et je dois essayer de comprendre comment Dieu me l'a révélé. Le comment, vous voyez. Le comment en théologie qui joue un rôle très important, parce que je ne peux pas savoir ce qu'est Dieu. Je ne peux pas savoir ce qu'est la très sainte Trinité. Mais je peux voir comment Dieu me l'a révélé. Alors si je peux saisir comment Dieu me l'a révélé, alors j'ai quand même une piste qui me permet, une crête si vous voulez, une crête d'intelligibilité. Or, c'est par le point de vue des processions. Cette première question, c'est la procession. Parce que c'est la ligne par où il y a une certaine intelligibilité. Une personne procède de l'autre. Donc le mystère, si vous voulez, la fécondité. La fécondité en Dieu. Il y a une procession. Une personne procède de l'autre. Une procède vient de l'autre. Et parce qu'elle vient de l'autre, elle se distingue de l'autre. Je vois donc par où on peut saisir une distinction dans l'unité, sans briser l'unité. Ça, c'est l'article merveilleux de saint Thomas dans le contrat Gentiles. Hein. Il n'a pas repris dans la Somme, mais dans le contrat Gentiles, où il y a un souci d'intelligibilité hein, le plus grand par rapport aux Gentiles, c'est-à-dire par rapport à ceux qui ont la dent dure, alors il montre dans le contrat Gentiles comment l'immanence, plus elle est grande, la vie implique l'immanence, plus la vie est forte, plus l'immanence est grande, et plus il peut y avoir fécondité. Donc il peut y avoir une distinction à l'intérieur de l'unité. Le mystère de la vie permet une distinction à l'intérieur de l'unité. Vous voyez, l'analogie est du côté de la vie. Elle n'est pas du côté de l'être. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est par le point de vue de la vie, c'est le traité de la très sainte Trinité commence par le traité de la fécondité, donc le traité de la vie. C'est par le point de vue vital que saint Thomas commence à montrer le mystère de la très sainte Trinité, c'est qu'il y a une vie en Dieu. Or, au niveau de la vie, je peux concevoir unité et distinction. Nous sommes tous un dans la nature humaine. Et nous sommes tous distincts les uns des autres. Pourquoi ? Grâce à la fécondité. C'est la fécondité qui explique la diversité de l'unité. Nous sommes tous de la même souche. Nous avons tous une même source. On est plus ou moins loin de cette souche. Plus ou moins loin, mais au fond, on a tous la même source. Il y a une unité dans la source et il y a une distinction. C'est très gros pour nous. C'est bien évident, mais il suffit de penser que la vie peut très bien, dans son immanence, impliquer une distinction. Et là, il n'y a pas de contradiction. Au niveau de la vie, au niveau de l'être, je ne pourrais pas le dire, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on commence par le point de vue de la procession. On commence par le point de vue de l'opération immanente. Et cette opération immanente qui peut avoir un fruit distinct. Et c'est la seule intelligibilité que j'ai. Alors, le passage le plus délicat, c'est lorsque je passe de l'analogie de la vie à l'analogie de l'être. En Dieu, vie et être font qu'un. Et c'est là où intervient le constitutif formel de la personne divine. Je ne suis plus au niveau de la vie. Mais c'est par le point de vue de la vie que je pénètre dans le mystère de la très sainte Trinité, par le point de vue de la fécondité, pour ensuite réfléchir sur, mais il y a une distinction. Il y a une distinction dans l'unité. Que représente cette distinction? Qu'est-ce qui fait qu'une personne se distingue d'une autre? Qu'est-ce qui me permet de voir qu'une personne se distingue d'une autre? Elle se distingue d'une autre parce qu'elle est relative à l'autre. Alors, c'est le point de vue de la relation qui me permet seul d'arriver à distinguer et à permettre le passage de la vie à l'être. C'est la relation. Pourquoi ? Parce que la relation a ce privilège d'être l'être le plus ténu du côté de sa détermination. C'est l'être le plus ténu. qui peut ne rien ajouter au niveau de l'être, tout en distinguant. Et c'est vrai, c'est propre de la relation. Je suis en relation vis-à-vis de vous, maintenant. Je disparais. Je ne suis plus en relation vis-à-vis de vous. Je ne suis pas changé, vous non plus. Et il y a une relation pourtant qui disparaît. La même chose de l'amitié. L'amitié est une relation. Deux êtres sont amis, sont relatifs l'un à l'autre. L'un meurt, l'ami n'est pas changé dans son être. Et pourtant, tout est changé. Et on dira, mais il n'est pas changé. Tout est changé. La relation disparaît. C'est très curieux, la relation. Hein. Et c'est cette notion de relation qui va permettre le passage de la première analogie du côté de la vie à la seconde analogie du côté de l'être. Et c'est ce qui va permettre à saint Thomas d'essayer de comprendre comment je peux préciser à l'intérieur du mystère de la fécondité de Dieu ce qu'est la personne. Alors, on va voir. Dans la relation, on va purifier le concept de relation. On va purifier le concept de relation de façon étonnante. Dans la relation, il y a un il et un ad, hein, comme dit saint Paul. Distinction qui est une distinction très très précise en saint Paul. Il y a l'il et l'ad. La relation implique un fondement. Et la relation, dans ce qu'elle a de tout à fait propre, c'est être vert. Je suis vers quelqu'un quand je le regarde. Mais ce vers implique un point de vue de hâte, de fondement. En Dieu, il ne peut pas y avoir une distinction, il ne peut pas y avoir d'accident. Donc, je suis en présence d'un hâte subsistant. Et c'est cet hâte subsistant qui est la raison formelle de la personne. On reprendra ça. Mais réfléchissez, parce que c'est très important de saisir ce passage des analogies de vie, analogies de l'être. Au point de vue analogie de vie, c'est la fécondité. C'est ce qu'il y a de plus parfait dans l'ordre vital. Au point de vue de l'être, c'est ce qu'il y a de plus débile. La relation, c'est l'être débile. C'est vrai, un être purement relatif, c'est un être débile. On sait très bien. Il coule. Alors il court après, il est débile, il n'arrive pas à se tenir, il manque d'autonomie, alors il est débile, il est hard. Et bien c'est ce qui est le plus débile dans l'ordre de l'être qu'on va appliquer à l'intérieur même du mystère de Dieu pour saisir qu'il y a une distinction sans briser la simplicité. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus est le fruit de vos entrailles. Amen.